BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où c'est le patron qui passe un entretien d'embauche face à trois étudiants. Aujourd'hui, c'est un défi lancé à Philippe Berterottière. Bonjour, vous êtes le PDG de GTT, une PME française qui équipe tous les méthaniers de la planète. C'est quand même important quand on a 100% du marché, c'est quand même un argument de vente important. 600 collaborateurs qui s'occupent de concevoir des membranes en acier, vous allez nous expliquer ce que fait votre groupe, mais j'ai trois étudiants pour vous aujourd'hui, Philippe. Trois étudiants dont on doit faire la connaissance et qui vont nous rejoindre. Ils ont entre 20 et 22 ans.
Je suis Grégory Alloin, j'ai 22 ans et je suis étudiant en fin d'études à l'école de mine de Saint-Étienne et en double diplôme à l'université de Cranfield au Royaume-Uni. GTT, c'est pour moi un grand groupe français avec une large influence industrielle mondiale dans un domaine qui attire ma curiosité.
Bonjour, je me présente, Nicolas Méjean. Je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur et président de Junior ISEP, une des junior entreprises les plus performantes en France. Et pour moi, le groupe GTT, c'est un des acteurs majeurs du rayonnement du savoir-faire français à l'international.
Bonjour, je suis Yanis, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'INSA Lyon et également président de la junior entreprise de mon école, Éthique INSA Technologies. Je considère Exail comme une entreprise inspirante car elle montre que la France peut être encore aujourd'hui compétitive dans le domaine des nouvelles technologies à l'échelle internationale.
Bonjour à tous les trois, merci d'être venus dans Recherche Talent pour discuter avec Philippe Berterottière. Philippe, vous m'avez demandé précisément trois ingénieurs.
Oui.
Vous n'êtes absolument pas ingénieur vous-même.
Non, je ne suis pas ingénieur, mais GTT est une entreprise qui emploie énormément d'ingénieurs. Vous avez dit qu'on employait plus de 600 personnes. Et sur ces 600 personnes, il y a près de 400 ingénieurs. Et chaque année, on embauche des dizaines et des dizaines d'ingénieurs. Et ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé dans des entreprises très technologiques comme Airbus, Arianespace et maintenant GTT, toujours auprès des ingénieurs. Et en France, on a d'excellents ingénieurs. Et moi, je regrette que l'on ne vende pas mieux la technologie française, qu'il n'y ait pas plus de commerçants, de diplômés d'écoles de commerce qui s'attachent à vendre la technologie française partout dans le monde.
Vous, votre technologie est déjà bien vendue. Elle est
déjà bien vendue. On essaie d'aller au-delà de 100%, mais c'est un vrai challenge pour des nouveaux commerçants. Mais c'est un peu difficile.
Alors, expliquez-nous bien ce que vous faites.
Alors, on conçoit les méthaniers. Les méthaniers, c'est un bateau, c'est sans doute le bateau le plus compliqué qui soit. C'est un navire qui reçoit une cargaison de GNL, c'est-à-dire c'est un liquide qui est à moins 163 degrés. Vous pouvez transporter beaucoup de gaz si vous le mettez à l'état liquide, mais pour ça, il faut que vous ameniez la température à moins 163 degrés. C'est très, très froid. Et il faut que vous la gardiez à cette température sans apport de froid. Quand vous versez ce liquide dans le bateau, le bateau se contracte littéralement. Après, il va aller sur des vagues, il va se déformer. Tout ça est extrêmement compliqué. Vous avez des cuves extrêmement fines, 1 mm d'épaisseur, les parois. Et il faut que ça reste absolument intact, c'est-à-dire sans aucune fuite, pendant tout le voyage, pendant des années, pendant des dizaines d'années, pendant 40 ans. Et c'est ce que l'on fait. On fait quelque chose donc d'extrêmement performant avec une paroi très fine qui reste parfaitement étanche. Voilà.
Un métier technique. Vous connaissiez GTT avant que je vous convoque à cette émission ?
Personnellement, non.
Tout pareil pour moi, je ne connaissais pas.
Aucun de vous trois. Quand vous entendez Philippe Berterottière expliquer que c'est une technologie très pointue, mais essentielle, hein, dont on a besoin quand même pour le gaz, ça vous fait tilt dans la tête ou pas? Qui veut commencer? Nicolas, Yanis, allez-y, Yanis.
Oui, c'est, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout que c'est une entreprise française à la base, ça permet de se rendre compte que la France est toujours à la pointe sur des technologies qui peuvent être très techniques. Donc moi ça me parle beaucoup, une vision pionnière qui me touche et j'ai hâte de pouvoir poursuivre l'échange en tout cas, oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Philippe Berterottière ?
Alors, pour commencer, moi, c'est dans cette vision pionnière que vous mettez en avant, avec l'innovation qui a l'air d'être au cœur des valeurs de l'entreprise. Est-ce que vous avez une mission ou une vision, on va dire, sous-jacente à cela ? Parce que là, est-ce que c'est simplement l'innovation pour l'innovation ou l'innovation avec une dimension d'impact derrière ?
Alors, notre raison d'être, ça se résume en quelques mots, c'est des technologies pour un monde durable. Nous croyons vraiment que la technologie, les technologies peuvent transformer notre monde, peuvent lui permettre d'aller vers des émissions de CO2 beaucoup plus faibles, peuvent nous permettre d'aller vers un monde durable. Alors aujourd'hui, c'était le GNL. Le GNL permet de réduire très significativement les émissions par rapport au charbon ou par rapport au pétrole. On arrêterait le charbon aujourd'hui et on passerait au GNL. Il y aurait 15% des émissions de CO2 de la planète qui disparaîtrait. C'est absolument énorme. On se demande pourquoi on le fait pas, parce que c'est juste simple. Et puis on travaille sur d'autres choses. On travaille sur la capture du CO2 sur les bateaux. On travaille sur le transport de l'hydrogène liquide sur les bateaux. On travaille sur les électrolyseurs. On est la seule entreprise en France qui fabrique des électrolyseurs aujourd'hui. Et on a l'intention de construire une gigafactory à Vendôme et de devenir un des très grands mondiaux des électrolyseurs. On travaille sur l'ammoniac, qui peut être une énergie qui, lorsqu'on la brûle, n'émet pas de CO2. Bref, on s'intéresse à tous les sujets de la transition énergétique.
Grégory, la transition énergétique, enfin, on n'est qu'à la deuxième émission de Recherche Talent, on ne parle que de ça, je n'ai que des ingénieurs qui veulent travailler dans la transition énergétique. Là, vous entendez le GNL, ça vous parle ?
Pour être tout à fait honnête, le GNL, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. J'ai commencé à faire des petites recherches justement par rapport à ce type de gaz que je ne connaissais pas auparavant. Et ça m'a vraiment donné un peu envie d'en découvrir et de savoir aussi quelles étaient vraiment les perspectives d'évolution de l'entreprise. J'ai vu que depuis 2010, ils s'étaient implantés dans de nombreuses filiales, qu'ils avaient créé de nombreuses filiales à l'international. Et du coup, j'aimerais savoir vraiment quels seraient vraiment les...
Vous voulez bosser à l'international, vous ?
J'aime bien l'international, j'ai même moi-même fait mes études à l'international dans le cadre d'un double diplôme, et du coup c'est pour ça que ça m'intéresse grandement de savoir quels sont les différents projets que l'entreprise souhaite mener à ce niveau-là, et dans la continuité de cette création des...
J'ai TTC à Saint-Rémy les Chevreuses, si je me trompe, mais vous êtes partout dans le monde.
On est un peu partout dans le monde, alors on est beaucoup là où on construit des navires, donc en Corée et en Chine, et on a beaucoup de personnes, y compris des ingénieurs qui sont sur ces chantiers pour construire ces navires. On a aussi des filiales dans le digital pour faire des systèmes digitaux, des systèmes numériques pour améliorer la performance des navires, donc réduire leurs émissions, qui sont implantés à Singapour, implantés en Islande, où on a essentiellement des ingénieurs. Et puis, on vient, par exemple, de faire un investissement dans une société espagnole qui fait un système de voile extrêmement ingénieux qu'on pourra implanter qui est déjà installé sur des navires marchands, des grands navires. Et on espère bien que beaucoup de navires s'équiperont de ces voiles et pourront ainsi réduire leurs émissions de CO2. Bref, quand on regarde la planète et les solutions de décarbonation, nous on regarde le monde entier et on se limite absolument pas à la France, même si on pense que la France est pleine de talents.
Grégory, vous avez un profil plutôt logistique, ça vous parle GTT ?
Moi, ça me parlait un peu. Je m'intéresse aussi beaucoup au commerce, tout ce qui va être donc la logistique dite générale. D'ailleurs, c'est une question que je me posais. GTT donc est énormément, comme vous l'avez dit, implanté en Chine et en Corée. Et on sait qu'avec certains regains de tension, notamment entre le Taïwan et la Corée, est-ce que justement l'entreprise n'est pas mise à risque, notamment si les ingénieurs sont présents en Chine, s'il y aura un affrontement entre Occident et la Chine ?
Alors, une tension entre Taïwan et la Chine. Écoutez, je pense que aujourd'hui, s'il devait y avoir des tensions, il y aurait quand même le temps de revenir, voir est-ce que ces tensions qui existent et qui durent depuis extrêmement longtemps, ça dure depuis 1949, donc c'est pas une nouvelle histoire. Est-ce que ça mettrait vraiment en cause les activités en Chine ? J'en suis pas tout à fait sûr. La Chine est absolument systémique dans le monde, tout comme le monde est absolument systémique pour la Chine. Et je crois que une situation de conflit personne n'a intérêt à ce qu'elle dégénère. Voilà.
Bon, personne ne veut savoir combien on gagne, où est-ce qu'on travaille. Non, tout le monde veut parler relations internationales. C'est pas une critique, c'est juste un constat. C'est ça qui vous intéresse en premier.
Moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la vie dans l'entreprise. Mmh. Et ma question là va rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur cette vision pionnière que vous avez. Est-ce que cette vision-là, elle se retranscrit dans les façons de travailler? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des modèles, par exemple, d'intraprise, une hiérarchie plus souple pour permettre, en fait, au profil que vous engagez?
Vous voulez monter votre boîte après?
Non, pas forcément. Mais je pense que, en étant ingénieur, surtout, par exemple, en junior entreprise, on peut avoir un profil très proactif. Et c'est intéressant d'avoir une certaine liberté, dans les missions que va nous donner notre entreprise.
Oui, et je dirais même que ça va au-delà. C'est-à-dire que si vous voulez être une entreprise innovante, il faut que vous donniez cette liberté. Il faut que vous donniez cette envie de créer, cette envie d'innover, cette envie de chercher. Et il peut y avoir vous appelez ça des hiérarchies, il peut y avoir des référents, des supérieurs et qui vous aident. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous donner, pour vous montrer ce qui a pu déjà être fait, là où on a déjà échoué. Il ne faut pas forcément repartir dans cette piste-là. Mais on est la première ETI en France pour le nombre de brevets. chaque année, depuis plusieurs années. Ça vous montre que c'est un indicateur comme un autre, qui fait que on est loin d'ailleurs devant les autres. Chaque année, et de façon récurrente, on est les meilleurs en cette matière. On a un certain nombre de logiques pour de processus, on appellerait ça dans la novlangue managériale, pour inciter à l'innovation. On va mettre en place effectivement un intrapreneuriat pour encourager les personnes qui ont des idées en rupture à se lancer. Et on va leur donner des moyens en les accompagnant avec des personnes, par exemple, qui pourront se pencher sur l'aspect commercial pour leur dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Voilà, donc c'est vraiment au cœur de notre activité. Pour vous dire un autre chiffre, 30% de nos dépenses, c'est pour l'innovation.
La question qu'il y a derrière, c'est rentrer dans une entreprise, oui, mais être libre quand même, un petit peu.
C'est ça.
D'avoir des idées bonnes ou mauvaises, c'est on l'entend, hein, ils veulent pouvoir... être libre de réfléchir de leur côté aussi, Philippe. Hein.
Et des idées bonnes ou mauvaises, mais des idées. D'abord des idées. Des idées, il faut absolument des idées. Il faut faire avancer les choses. Et puis, il faut peut-être échouer encore, échouer mieux. Mais on va trouver, on va marcher. Nos technologies pour les méthaniers, on a commencé il y a 60 ans. Ça a été très dur pendant longtemps. Et puis maintenant, on a une position extrêmement enviable. Et bien, on veut faire la même chose pour nos opérations digitales. On veut faire la même chose pour ces navires qui vont transporter de l'hydrogène à moins de 253 degrés, etc. Donc, c'est des idées, de la persévérance et la liberté d'imaginer.
Grégory, c'est Nicolas. Nicolas. Vous avez un profil plutôt ingénieur data. Du coup, une boîte comme... Non, c'est celui d'à côté.
C'est celui d'à côté.
Alors, qui est l'ingénieur data? C'est vous.
C'est moi.
Vous, quand vous regardez cette boîte GTT, vous dites, j'ai aussi envie d'être libre, de proposer des idées, ou vous dites, je rentre dans cette boîte, allez, j'y vais pour 5 ans, après je change de boîte.
Ah, justement, je pense que c'est une question que je voulais poser. C'était en fait comment, je dirais, se déroule l'univers GTT. En tant qu'ingénieur, quand on va rentrer, on va au début chercher évidemment à être formé, à rentrer dans le monde de l'univers, dans une grande entreprise comme la vôtre. Mais après, on va toujours vouloir évoluer, avoir une carrière évolutive, peut-être partir à l'étranger. Je pense que votre boîte doit donner des opportunités assez incroyables. Du coup, comment ça se débrouille, comment ça fonctionne dans l'entreprise?
Alors, quelque part, c'est pas une très grande entreprise. C'est à la fois pas une start-up avec toutes les limites qu'elle peut avoir, et c'est pas une très grande entreprise. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous trouvez la réactivité d'une très petite entreprise sans trouver les contraintes, la lourdeur des processus d'une très grande entreprise. Et on fait des choses très différentes. On fait, par exemple, je vous disais, les électrolyseurs dans le monde de l'hydrogène, ou qui se développent à toute vitesse. On fait du numérique, où vous avez besoin de personnes qui sont très imaginatives en cette matière. Et puis, on fait aussi des solutions cryogéniques, où vous travaillez dans la thermodynamique. C'est un tout autre métier. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que dans ces trois sujets, c'est que finalement, il faut avoir des cultures, des approches qui sont très différentes. Et je peux pas vous dire que vous allez faire ci, faire ça. Peut-être que vous allez faire du numérique. Et à ce moment-là, vous êtes dans un monde très entrepreneurial, très start-up. Et c'est l'esprit qu'on veut donner, où il faut aller très vite, où il y a une priorité fondamentale à l'imagination de nouvelles solutions qui sont totalement ébouriffantes pour des gens qui regardent les solutions installées. Et justement, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut avoir. Peut-être que dans la cryogénie, les navires qui transportent des liquides extrêmement froids, il faut être un peu plus conservateur, parce que là, c'est des quantités énormes d'énergie, c'est énormément d'argent sur ces navires, il faut être un peu plus prudent. Donc, je ne peux pas vous dire que vous allez rentrer dans un moule particulier, parce qu'il n'y a pas de moule. Il y a des talents que l'on essaie de faire s'épanouir le mieux possible, là où c'est possible, dans une entreprise qui finalement est assez diverse, avec des métiers assez différents.
Grégory, vous aurez la dernière question.
Yes. Du coup, justement, pour rebondir un peu sur la question de Nicolas, par rapport à ça, moi, justement, la place de la jeunesse au sein des entreprises, c'est quelque chose que je recherche aussi en tant que futur titulaire d'un premier emploi. J'aimerais savoir qu'au sein de GTT, comment cela se manifeste? Donc, quelle est vraiment l'offre que vous allez donner aux jeunes? Donc, l'accompagnement que vous allez leur offrir, mais aussi ne serait-ce que dans les opportunités de carrière. Et je rajouterais du coup à cette question aussi si vous touchez uniquement des ingénieurs ou aussi d'autres profils. Par exemple, ça peut être des logisticiens qui peuvent sortir de master en supply chain, par exemple.
Alors, il y a 40% de nos effectifs sont des personnes de moins de 35 ans. Ça vous donne une idée de la place des ingénieurs. Et chaque année, je vous le disais, on embauche des dizaines et des dizaines de personnes, de la place des jeunes. Et on cherche à accentuer ça. Et je veux dire, c'est une véritable identité de l'entreprise parce que plus une entreprise est jeune et plus elle a envie. On a aussi des personnes qui savent les encadrer, qui peuvent les encadrer, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent leur dire ce qu'il faut, quelles sont les erreurs à éviter ou comment aller plus vite. Donc, il y a un véritable encadrement. Et puis, il y a une chose aussi qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il faut pouvoir donner l'opportunité à un jeune de bouger, de faire un métier différent 2 ou 3 ans après le même métier et de pas s'ennuyer, de passer à autre chose. Et c'est comme ça que vous arrivez à avoir une personne qui, après quelques temps, peut parfaitement faire la synthèse entre ses différentes expériences et apporter énormément à l'entreprise. C'est intéressant pour lui et c'est très intéressant pour l'entreprise. Donc, c'est ce que l'on essaie de faire en gérant les talents, en regardant les personnes, en regardant leur implication, en regardant ce qu'ils apportent, en regardant leur envie et puis en essayant de leur trouver des opportunités qui leur permettront de donner tous les moyens d'exprimer leurs talents.
Philippe, on va débriefer avec Yanis, avec Nicolas et avec Grégory pour savoir si oui ou non ils ont envie de rejoindre votre entreprise à la fin de cette émission. Je vais vous laisser rejoindre les coulisses et après on débriefera ensemble sur eux quand même, sinon c'est pas juste. À tout de suite.
Merci beaucoup.
Recherche talent sur BFM Business.
Et c'est l'heure de notre débrief avec Yanis, Nicolas et Grégory. Qu'est-ce que vous avez pensé de Philippe Berterottière ? Alors, pas à titre personnel, mais franchement, la boîte, vous êtes convaincus ou pas ? GTT, RM, un projet derrière, énorme, avec le gaz, le GNL, le transport. On a parlé cryogénisation quand même, on est allé assez loin. Yanis, ça vous a convaincu ou pas ?
Alors moi, d'un point de vue personnel, déjà, j'ai trouvé très sympathique et très accessible, très franc, même si c'était pas forcément ce que vous demandiez. Et après, du point de vue de l'entreprise, moi, initialement, c'était pas forcément un secteur qui m'aurait attiré. Les méthaniers, pour être honnête, moi, c'est pas du tout ce vers quoi je pensais me tourner. Par contre, j'ai été assez séduit par l'identité de l'entreprise, ce qu'il a présenté sur l'équilibre entre une start-up et un grand groupe dans le fait d'être une ETI, ça m'a pas mal parlé sur les libertés que ça offrait. Donc, je serais pourquoi pas intéressé pour un deuxième rendez-vous, pour en savoir plus.
Vous le reprenez pour un deuxième rendez-vous. Ouais. Non, mais c'est important ça, la liberté dans la boîte. Vous rentrez dans une boîte, mais vous voulez pas un carcan. En même temps, dans une boîte, il y a des règles quand même. Enfin, là, je veux bien qu'on dise qu'on va être libre, etc., mais il y a quand même des règles.
Bien sûr, au sein d'une boîte, il y a toujours des règles, mais aussi ce qu'on recherche, à dire à titre personnel, en tout cas pour ma part, je pense après, on verra ce que pensent mes deux compères aussi sur ce sujet. Mais c'est ne serait-ce que des opportunités d'évolution, et l'évolution, elle va passer par cette certaine plage de liberté qui va exister. Après, pour revenir un peu sur l'aspect global de l'entretien, j'ai bien aimé le fil conducteur de la discussion avec comment il nous a présenté le domaine d'action de l'entreprise, ce qu'il réalisait, les différents projets, aussi les actions qu'ils avaient mis en place par rapport à la décarbonation, oui, par rapport à ça. Et moi, étant dans un domaine qui touche à la logistique, c'est quelque chose que je convoite et que je manipule quotidiennement, on va dire.
Oui, mais c'est marrant parce que vous êtes dans la logistique, la data, mais vous connaissiez pas cette boîte. Bah, c'est pas une critique, mais c'est jamais elle est arrivée jusqu'à vous. C'est une erreur. On va lui en parler à Philippe. Il faut absolument qu'il soit connu des gens comme vous.
C'est ça. Après, je pense que c'était par rapport peut-être au niveau, vu que il y a le point de vue académique où on est assez limité au niveau de la connaissance. Là, il y a un petit domaine où ils exercent qui est plutôt situé en Asie. Le scope où on était un peu figé au sein de mes études au Royaume-Uni, c'était vraiment sur la partie européenne, etc., avec les transports ferroviaires et routiers. Là, on parle plus de tout ce qui va être transport maritime, mais c'est tout à fait intéressant de voir cette autre part, et c'est quelque chose aussi que je m'étais interrogé au sein de mes études.
Nicolas, je vous propose un CDI chez GTT, vous signez ou pas ?
Franchement, pourquoi pas ? Je pense que, de ce que j'ai entendu, la boîte a l'air quand même... bien, de remplir mes attentes. Il y a du mouvement, ce que j'aime bien. Je pense que avoir un carcan toute la vie, ça peut pour certaines personnes être très bien. Moi, j'aime bien bouger. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. On m'a parlé de plusieurs, de bouger de pays en pays, d'avoir plusieurs jobs différents. Donc, ça peut être vraiment, je pense, pourquoi pas, avoir évidemment le salaire.
Ah, alors voilà, mais pourquoi personne ne pose jamais la question ?
Parce que je pense que quand on a l'opportunité de parler avec quelqu'un comme ce monsieur, on doit plutôt parler sur des sujets globaux, des sujets de fond, l'entreprise, la stratégie, le pilotage. Et essayer plutôt de voir la vision globale de l'entreprise.
Ah, c'est pas de son niveau, les questions salaires. Ben, moi, je vais lui demander.
Mais évidemment que c'est son niveau. Mais il a justement la capacité d'être largement au-dessus et de pouvoir nous donner, je dirais, vraiment la vision et l'âme de son entreprise.
L'aspect transition énergétique, ça, ça ça vous parle quand même, travailler dans l'énergie, ça reste un but pour tous les trois ou pas, Yanis?
Pour moi, c'est, je pense que c'est pas forcément un but de travailler dans une entreprise qui est elle-même directement dans la transition. Je pense que chaque entreprise peut, à sa manière, contribuer à cette transition-là. Là, ce que j'ai bien aimé avec GTT, c'est que à travers des concepts de captation qu'il a présenté, par exemple, on sent que c'est une entreprise qui le fait pas forcément à moitié. C'est pas, moi, je sens pas du greenwashing en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est des vrais projets de décarbonation qui sont mis en place, donc ça me plaît.
Juste un des deux, parce qu'il nous reste 10 secondes. Il est pas ingénieur, Philippe Berthe-Rottière. Est-ce que vous trouvez que ça se voit, vous qui êtes ingénieur?
Il connaît son discours.
Après, je pense qu'on n'est pas rentré dans des sujets très techniques, on va savoir.
Il faut des vendeurs pour vendre les compétences des ingénieurs. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus discuter avec nous. Vous avez donc été convaincus par Philippe Berthe-Rottière. Est-ce qu'il est convaincu aussi pour vous? On va lui parler salaire aussi.
Et voiture de fonction.
Recherche talent sur BFM Business.
Bon, Philippe Berthe-Rottière, vous m'avez demandé trois ingénieurs. Je vous les ai apportés sur un plateau. Vous les avez convaincus, c'est déjà une bonne chose. Ils n'ont pas osé vous parler salaire.
Oui.
Ils considèrent que ce n'est pas votre travail, ça.
Écoutez, si, c'est mon travail parce que il faut que je sois attractif. Alors, je suis attractif parce que l'entreprise est passionnante, mais il faut être aussi attractif parce qu'à un moment ou un autre, ils vont vouloir s'installer, avoir un appartement, un logement un tout petit peu plus grand.
Il y a de la concurrence.
Il y a de la concurrence aussi, mais personne ne peut égaler GTT en termes de passion. Donc, il faut qu'ils viennent pour la passion et il faut qu'ils restent parce que le salaire est très intéressant.
Mais c'est ça votre travail, c'est de distiller la passion.
Absolument. Je pense que d'ailleurs, c'est une des tâches essentielles du chef d'entreprise. Il faut qu'il fasse en sorte que son entreprise soit passionnante. Il faut qu'il fasse en sorte que dans son entreprise, tout le monde ait envie de travailler, tout le monde ait envie d'imaginer, tout le monde ait envie de déplacer des montagnes. Voilà.
Les étudiants, et c'était pareil pour Bruno Bouygues du groupe GIS, que vous pouvez regarder en replay ou en podcast, l'Asie, ça pose problème. C'est-à-dire que très vite, la question sur vous travaillez avec la Chine, elle arrive, mais c'est la première question.
Mmh. Oui, mais l'Asie, vous savez, c'est vaste d'abord. Et puis l'Asie, c'est près de 50% de l'économie du monde. Alors de toute façon, vous ne pouvez pas l'ignorer. Et comme je disais tout à l'heure que l'Asie, c'est un peu systémique et le reste du monde est un peu systémique. Moi, je ne crois pas forcément que les choses vont très mal aller. Je pense que on est dans une période où on sort d'une mondialisation béate et on rentre dans une période où la mondialisation est beaucoup plus un rapport de force qu'elle ne l'a été. Mais c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être en Asie et d'être là-bas pour se défendre, pour se battre commercialement, pour faire valoir nos technologies, pour faire valoir la supériorité de nos technologies. Voilà. Et pour ça, on a besoin de personnes qui ont de l'énergie, comme ces trois...
Oui, parce que vous les avez trouvés comment, mes trois ingénieurs?
Écoutez, moi, j'ai un regret.
Oui, ils sont trop jeunes. On ne peut pas les embaucher dans la minute.
Non. J'aurais aimé qu'il y ait une ou deux jeunes femmes.
Eh oui.
Et chez GTT, on a la conviction que, d'abord, c'est très important sur un plan humaniste. Il faut donner une chance à l'autre moitié de l'humanité. Mais en plus, quand vous avez des jeunes femmes ou des femmes dans une entreprise, cette entreprise travaille beaucoup mieux. Et c'est démontré d'ailleurs par des études internationales, mais nous, chez GTT, on l'a démontré. Et donc, on attache une importance considérable à l'emploi des jeunes femmes. Alors, on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes femmes diplômées des grandes écoles. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait au moins une jeune femme dans le panel.
Sur les ingénieurs, on arrive à en faire venir 10% à peu près.
Alors 27% diplômés dans les grandes écoles. Et puis, il y en a beaucoup qui s'échappent des métiers de l'industrie, ce qui est très dommage parce que l'industrie est passionnante, en sortie d'école. Moi, je le regrette énormément. On a écrit un livre d'ailleurs pour les très jeunes filles au collège, pour les attirer vers les métiers de l'industrie, par les métiers d'ingénieurs, tellement on est passionné que c'est une tellement convaincu que c'est une cause fondamentale. Voilà, on pourrait parler, je pourrais vous en parler beaucoup. On s'est vraiment mobilisé sur ce sujet-là et les choses, malheureusement, ne vont pas dans le bon sens. C'est un autre sujet que ces trois...
Mais ils étaient bien quand même.
Ouais, absolument, je les embauche.
Ah bah, on fait des affaires dans Recherche Talent. Si vous avez envie de participer à Recherche Talent, vous nous envoyez un mail avec vous, @bfmbusiness.fr. Ça vaut pour les jeunes, pour les patrons aussi, mais c'est un autre canal. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera pas forcément d'ingénieurs, on changera de sujet. Bonne journée sur BFM Business. Merci Philippe.
Merci
à très bientôt.
Recherche talent sur BFM Business.